terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini.
Donc c'est la chanson de Craonne. Donc on est en plein dans 14-18, la guerre de 14-18. Et pourquoi cela ? Nous sommes sur Canal Sud 92.2 et on est le premier vendredi du mois, donc le premier vendredi du mois de février. Et c'est le vernissage et l'accueil de l'artiste qui s'est installé dans les locaux de la radio Canal Sud. C'est Jean-Luc Zwinger qui a installé une exposition qu'il intitule « Camouflage, auto-camouflage de la conscience ». Et pourquoi parle de 14-18 ? Parce qu'il y a un texte de 3 pages qui nous explique, et on apprend plein de choses assez étonnantes, sur la naissance de l'art du camouflage militaire. C'est cela ?
Voilà, tout à fait.
Alors, bonjour Jean-Luc.
Bonjour. Bonjour Chantal, bonjour au Canal Sud. Eh bien, mais merci déjà de m'accueillir pour la énième fois, parce que c'est quand même pas la première fois que je fais des expos à Canal. On m'a dit que je faisais des fois des expos sur l'histoire. Bon, ben c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire c'est... Par rapport au travail que je suis en train de faire, c'est un peu la rencontre avec cette histoire de pas de commémoration, parce que bon, je m'en bats de 14-18, mais de savoir qu'il y a quand même un point, une origine de cette histoire de camouflage.
Oui, une origine artistique, c'est-à-dire des peintres, c'est des artistes
oui,
peintres.
Oui, complètement. Bon, je ne me rappelle plus des noms, c'est oui, des gens qui ne sont plus là depuis longtemps. Mais... Ouais, sur le petit texte que j'ai écrit, je dis, bon, ils n'avaient peut-être pas envie de se faire mitrailler, comme leurs collègues. Et certainement, il y avait de ça aussi, hein, d'être un peu planqué. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils ont amené quelque chose de nouveau, on va dire de non-violent, de pacifique, je dirais, de se cacher par rapport... Faut pas oublier que les uniformes des premiers combattants en 14, c'était... bleu et rouge.
Oui, oui.
Et surtout les pantalons rouges.
Dans la campagne, ça se voit.
Et le calot rouge. Bon, les Allemands, ils aimaient bien tirer là-dessus, ça leur faisait des cibles. Ils auraient pu mettre des cibles.
Oui, oui.
Bon. Mais on vient d'une autre époque, on vient de la guerre de 1870. Bon, ça remonte un peu dans l'histoire, le Second Empire. Ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui étaient favorables à garder ces uniformes rouges. C'était beau, c'était l'armée. C'était
Ça, c'est bien pour le défilé du 14 juillet. Mais
voilà, ou pour la répression des communards, des choses comme ça. On pouvait imaginer, toi, que c'est...
C'était Ce qui est intéressant dans ton texte, c'est quand même, tu démarres par le fait que 14-18, ça a fait 18,6 millions de morts.
Quand même,
et que
ouais.
Peut-être qu'il y en avait certains qui n'avaient pas envie de mourir, et que l'idée du camouflage, c'est un peu comme ça que certains artistes se sont fait embarquer dans cette histoire. Parce qu'après, les militaires ont trouvé ça très bien et ont mis en place des unités spéciales
voilà.
Pour imaginer du camouflage. Et après, toi, tu vas très loin ensuite sur... on retrouve Picasso, puis on va retrouver aussi, alors j'ai oublié son nom, le chinois qui fait l'art du camouflage, là, qui a exposé d'ailleurs, je crois, à l'espace Écureuil.
Oui.
À Toulouse, place voilà. Du Capitole. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant, ça, cette façon, comme tu dis toi, c'est de confondre le sujet et le fond.
Voilà, trouver les filiations surtout, parce que, bon, à l'époque, je veux dire, c'était surtout par une nécessité. Bon, ils ont compris, même le haut commandement militaire, que. Aller être en rouge sur un terrain de bataille, c'était pas top.
Il n'y a pas trop de coquelicots par là, quoi.
Voilà. Puis déjà,
dans le nord de la France.
Les
hein.
Premiers mois, c'était par dizaines de milliers de jeunes qui se faisaient faucher, je dirais, par les mitrailleuses, etc. Bon. Mais il faut se replonger un peu dans l'époque, parce que c'est vrai que c'est début du XXe siècle. Bon, là, on est dans une époque un peu aussi spéciale, mais bon. Là, on a quand même du recul aujourd'hui sur cette époque-là. Donc, comme je dis, en fait, j'ai rencontré un peu cette histoire, bon, par rapport à mes propres recherches sur l'histoire du camouflage, ou de l'autocamouflage, mais je définirai un peu plus.
Oui, en plus, il faudra définir l'autocamouflage de la conscience. On n'a pas trop de temps, alors
vas-y. On a combien de temps ?
Non, jusqu'à... On a encore le temps.
Bon, ok. Donc, en fait, on est aussi dans des courants, bon... Des courants, je veux dire, de la culture. Bon, là, on baigne en plein dans le cubisme. Les gens connaissent aujourd'hui à peu près Picasso, je veux dire.
Des trucs... on peut appeler ça du camouflage, c'est la désintégration, en fait. Hein.
Voilà, en fait, j'ai eu la chance d'aller voir la dernière expo de Marcel Duchamp à Paris, là, à Beaubourg. Et j'ai mieux compris où ils en étaient. Parce qu'en fait, si on ne resitue pas dans l'histoire, c'est vrai qu'on a vraiment du mal à savoir qu'est-ce que c'est cette histoire de cubisme, qu'est-ce que c'est cette histoire de camouflage et tout. On est au début du cinéma, même cinéma muet, etc., du mouvement. Donc en fait, les peintres essayent de réaliser sur une toile ce mouvement. Ça, c'est le cubisme. Bon. À savoir que ces peintres du cubisme, bon, ça touche au niveau international. Hein.
Donc cette désintégration, c'est le mouvement, en fait.
Voilà, c'est le mouvement. C'est par exemple, je regarde le micro, je tourne la tête, c'est toujours la même personne. Comment un peintre, un dessinateur peut le dessiner ?
Et Picasso mettra trois têtes.
Voilà, ouais, exactement. D'accord. Donc là, on est dans ce mouvement-là. Bon. Mm-hmm. À l'époque, ça n'a rien à voir, on est loin du camouflage. À savoir aussi... que ceux qui étaient dans le courant du cubisme vendaient surtout et particulièrement aux Allemands. Donc ils n'étaient pas très bien vus. Ça faisait ce truc un peu... ça faisait déjà un truc pré-militaire avant l'heure. Et à savoir, pour la petite histoire, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, tout ce qui était cubisme aurait été dans les expos d'art dégénéré. Voilà. Enfin, il y a eu différentes strates d'amateurs du cubisme. Donc voilà, la guerre de 14-18 se déclenche assez rapidement, parce qu'ils pensaient pas que ça allait durer aussi longtemps, 4 ans, etc. Et puis, quelques petits génies, ou je sais pas, ou qui avaient envie de continuer à dessiner. Moi, ça m'arrive des fois que je travaille sur le boulot, de faire les mains, il faut qu'elles fassent quelque chose. Et puis, pourquoi pas changer la couleur des choses, changer... Bon. Et très rapidement... Mais voilà, c'est parti d'un peintre, un dessinateur, mais plusieurs, parce qu'il avait des influences dans le rapport au ministère, donc c'est toujours comme ça, hein, c'est ceux qui sont les plus, qui ont plus de bagou, plus de liens, toi, qui percent quelque part. Et en fait, c'est assez rapidement reconnu comme élément de défense, disons, de l'armée française.
Oui, c'est ça. Oui, ah. Et on voit après qu'ils recrutent des dessinateurs, celui qui a créé Bécassine,
voilà.
Des choses comme ça. Et là, il y a vraiment une unité, bon, comme je disais, une unité militaire qui réfléchit à ça.
Je vais faire de l'humour noir, mais je veux dire, aujourd'hui, on dirait, tiens, on recruterait Charlie Hebdo pour faire des camouflages de l'armée. Bon, c'est pas très bon. Mais en fait, tout ça pour dire que moi, où j'étais impressionné, c'est ce côté attractif attractif, disons, du nombre d'artistes qui n'étaient pas du tout, et c'est bien dit dans les textes, de tendances très très différentes, à mon avis.
Oui, mais 14-18, ça a été l'union sacrée quand même. Hein. Tout le monde y allait. Hein.
C'était l'union sacrée. Bon, je ne suis pas historien, mais moi je me rappelle, il y avait de la musique sur la Grande Guerre, comme ils appellent ça, l'année dernière, c'était sur France Info, où ils expliquaient que la plupart des courants, courants anar, etc., sont devenus militaristes. C'était la défense de la patrie et point barre. Je veux dire, on a du mal à imaginer aujourd'hui. Hein.
Juste qu'en intro, quand on a mis la chanson de Craon, elle est en plein pour dénoncer. Mais alors, on conclura avec une autre chanson qui, elle, est tout à fait dans l'union sacrée. Quoi.
Voilà, voilà cette rencontre que j'ai faite, bon, justement, ouais. Avec cette époque-là.
Et en quoi ça a croisé, tu disais, ton travail? Alors, c'est vrai que on se souvient que dans les expositions que tu fais, tu travailles beaucoup la matière, hein, et que cette matière, elle se confond avec la toile, la peinture, des aplats. Enfin, tu transformes. On ne sait plus où est le tableau, en fait. Hein.
Après, voilà,
c'est-à-dire... Il n'y a plus la trace d'un tableau accroché. Quoi.
Voilà, le titre de l'exposition, Conscience, camouflage et auto-camouflage de la conscience, c'est camouflage. En fait, bon, ça date de, je sais pas, de l'âge préhistorique, c'est-à-dire qu'à regarder les animaux,
oui.
Pour dire que si on est encore des bêtes aussi, comment ils font pour chasser, etc., se cacher, ne pas se faire voir, et ne pas faire de bruit, être immobile. Vous voyez, prenez un chat qui va bouffer des moineaux, et ben il va s'approcher tout doucement, il va pas se camoufler, bon. Mais après, il y a effectivement des espèces, bon, le caméléon, bon, évidemment, c'est le truc le plus connu, qui va changer. Moi, j'étais une fois en Afrique, le caméléon, on l'a mis dans un seau orange, il est devenu orange. Oui, vraiment bon. Mais toujours cette idée que le camouflage de cette époque-là, voilà, qui est emprunté à certains animaux, c'est un arrière-plan, c'est-à-dire la nature, les buissons, etc., et le premier plan, qui est la bestiole, qui va se fondre. Voilà, donc cette histoire de premier plan et d'arrière-plan. Alors que moi, c'est là que ça m'a intéressé, parce que je me suis dit, bon, ben c'est... Il y a des choses... Même le chinois Louis, je ne sais plus comment il s'appelle, j'aurais du mal à me rappeler, oui. Bon, qui est très connu, parce que c'est vrai que c'est formidable son boulot, hein. C'est une précision...
On l'a vu, donc, à Escureuil, il se peint lui-même, Bulling, le visage, ouais. Ses vêtements, etc.
Voilà. Mais ce n'est pas exactement. Lui qui se peint, hein. Lui, il est juste acteur là-dedans, oui. c'est...
Ben oui.
Il y a un certain nombre de gens qui le peignent.
Sacré logistique, quoi. Oui,
puis avec des appareils informatiques.
Lui, il veut que ça soit fait à la perfection.
Ah, c'est à la perfection.
Donc lui, il est devant et on ne voit même pas ses yeux. On met un temps à les voir. Quoi, oui.
La condition de cette histoire de premier plan et derrière plan, du caméléon, c'est que rien ne doit bouger. Parce que dès qu'il y a un mouvement, évidemment, et ça s'est passé aussi pour le camouflage pendant la guerre 14-18, c'est qu'à la fin, vers 1918, ça a été plus une guerre de mouvement qu'une guerre de tranchées, etc., que c'était au départ. Et c'est vrai que le camouflage, on passe...
L'arbre qui court, ça ne marche pas, quoi.
Voilà, puis c'est pas ça, c'est qu'on habille en vert et puis on passe sur un truc dans un désert ou inversement, et ça ne marche plus trop. Donc,
mais quand même, moi je voulais revenir sur le fond là, parce que tu parles aussi de la conscience, mais c'est quand même du faux semblant, c'est quand même, il y a quelque chose de faux, parce qu'on nous fait croire que le sujet se confond, et en fait il ne s'y confond pas, il se maquille.
Oui,
c'est un maquillage, c'est une illusion. Voilà.
Bon, moi ce que je défends, alors justement, là c'est comme ça que je suis arrivé, bon, à cette histoire de camouflage en 14-18. Puis le côté intéressant de voir la part de la culture d'artistes qui ont participé.
Qui ont participé, bon,
ce qui est quand même formidable, je veux dire, une chose, rien que ça, je trouve ça,
Mais le texte en entier, on pourra le lire sur ton site. On met Jean-Luc Vinger, on peut le lire, le texte que tu as présenté.
Oui,
sinon, venir dans les
sur ma page Facebook. Puis j'ai publié sur plusieurs. Voilà. Sur plusieurs
sinon, éléments. Il est affiché
il est
dans
même
la
sur,
salle d'expo. Voilà.
L'hémosphère et puis d'autres choses. Ouais. L'histoire de l'autocamouflage. Enfin bon, de la conscience, là, je rentre dans mon histoire.
Ouais.
C'est qu'en fait, ce que je dis, c'est que tout ce qu'on voit, qu'on sent, enfin bon, ça, c'est toute l'évolution de nos perceptions, quelque part, sont des données subjectives. La couleur est une donnée subjective. Mmh. Suivant le type d'éclairage, vous avez, on perçoit les choses différemment. Mais à un tel niveau, alors disons que le travail que je fais, c'est que j'en fait, je, quand je dis que je détricote la matière, c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue ou qu'est-ce qui a constitué à l'échelle du temps, je veux dire, ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est la culture, c'est les arts, c'est des choses comme ça. Bon, par exemple, la perspective, c'est une donnée contemporaine, enfin, dans l'histoire de la création. Comment on perçoit les choses, c'est vraiment un truc très, très intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est l'évolution de notre conscience qui nous fait percevoir les choses, et pas l'inverse. Surtout pas l'inverse. Il y en a plein qui essaient de mélanger tout ça. C'est la nature qui façonne notre conscience. Mm-hmm. Karl Marx, il l'a bien dit. Hein. Je veux dire, c'est pas l'inverse. C'est pas les idées qu'ont les gens. C'est pas les idées. Elles sont pas comme ça auto-proclamées. C'est leur insertion sociale. C'est tout ça. Bon. Et la conscience.
C'est le fruit de d'échanges.
Oui.
De réflexions.
Alors, quand même des guillemets là-dessus. C'est-à-dire. Moi, quand je parle de conscience, c'est notre conscience d'humain. Toi. Parce que les animaux, tout ce qui a un cerveau a une conscience. Les animaux ont une conscience. Une conscience de l'extérieur, d'une proie, d'un prédateur, etc. Bon, nous, on a ce qu'on appelle la conscience de soi, c'est-à-dire, l'exemple le plus marquant, c'est pouvoir se reconnaître devant un miroir. Ce qui n'est pas donné à toutes les espèces de se reconnaître devant un miroir. Mais le travail que j'essaie de faire, justement, c'est de redécomposer quelque part toute cette histoire de, on va dire, d'acquis, toi, de normalité, pour en donner autre chose et pouvoir essayer d'apporter autre chose. Bon, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, premier abord.
Ou ambitieux, mais justement, il faut avoir des projets très ambitieux pour pouvoir travailler. Parce que c'est ça que tu travailles à chaque fois, ce sujet-là. Quoi.
Ouais. Moi, ce qui me guide, c'est que, bon, ça c'est une question d'investissement, de temps, etc. C'est que tout ça, je peux dire aujourd'hui, de l'avoir concocté dans un livre. C'est-à-dire que chaque exposition que je peux faire aujourd'hui sont des pages du livre. Mm-hmm. Bon, il reste à l'écrire pour donner une espèce de cohérence à tout ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, le tableau bleu, ce que j'expliquais à un copain là, qui est tout à l'heure, il est à deux niveaux, c'est-à-dire
il a un titre, lui, conscience.
Au petit déjeuner.
Conscience au petit déjeuner. Et alors, nous avons des capsules de lait, non?
Voilà.
Oui.
Parce que c'est des capsules que j'ai récupérées au petit déjeuner.
Ah oui.
Bon, il faut faire des petits clins d'œil de temps en temps. Oui, sinon, oui. Ça fait trop sérieux.
Oui, par contre, le montage est intéressant. Quoi. Il y a deux tableaux, d'ailleurs.
Voilà, c'est un diptyque. Oui. Bon, il me fallait de la surface, donc je ne pouvais pas faire autrement. Souvent, des fois, aussi des trucs de récup que je récupère à droite à gauche. Donc l'idée, là, c'est de dire que la matière, pour un même élément, si on regarde de plus près, par exemple, une capsule de lait, elles se ressemblent quasiment toutes, à quelques nuances près au niveau couleur, plastique, bon. Mais c'est pas ça. L'idée, c'est de dire, c'est que la matière, suivant les éléments ou la perception ou ce qu'on va pouvoir rajouter dessus, va changer de nature. Et là, on n'est plus du tout dans on s'éloigne complètement du camouflage. L'histoire du premier plan, de l'arrière-plan, et ce que je dis, c'est que jusqu'à maintenant, j'étais voir une autre expo à Paris, qui était pas mal, un Brésilien, hein, c'est assez fort. On passe devant des salles, on voit des parois en verre. En verre. Mm-hmm. Avec souvent, il y avait un truc du style, surtout ne traversez pas. Danger, oui. Enfin les interdits aussi mis là-dessus. Et bien la projection qu'on en fait, c'est une projection mentale. En fait, il a ni plus ni moins peint en deux couleurs différentes la salle. Et bien on a l'impression qu'il a donné l'illusion, toi, de plaques de verre qui séparent la salle. Et là, on arrive à un autre niveau, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui détermine, je dirais, la justesse de notre cerveau, de notre regard, de nos sensations. Et moi, c'est un peu dans ce sens-là. Bon, la critique que je fais par rapport aux Chinois, c'est très très bien, parce qu'on a parlé tout à l'heure au niveau de son travail. Il est excellent, hein, je veux dire. Y a pas, mais par contre, il est au niveau du caméléon.
Oui.
Sinon, pour
il
ça...
Il est, disons que lui, il travaille le sens esthétique.
Oui. Il y a après une espèce de discours qui s'est plaqué sur la critique de la société chinoise. Bon, ça, je veux bien, je veux dire...
Oui,
bon.
Parce que souvent, c'est des objets de consommation. Ouais.
Moi, je peux présenter des tableaux en hôtel camouflage. Mmh. Lui, il va présenter que des photos. Mmh. Il ne peut pas faire autrement.
Non, mais ça, c'est voilà, le côté performance.
C'est la limite, bon. Mmh.
Et là, toi, justement, on va juste vite quand même parler des tableaux que tu présentes là dans cette installation. Il y a tout un mur avec des petits formats de camouflage, là, quand même.
D'auto-camouflage,
oui. D'auto-camouflage, quoi. Et de l'autre côté, les autres formats sont différents, mais là, on peut deviner les objets, quand même. Puisqu'il y a des objets métalliques, des canettes écrasées, des choses comme ça.
Oui, je laisse à la limite, parce que je veux dire... C'est comme dans un mixeur, je pourrais tout broyer et puis on ne verrait plus rien.
Oui.
Non, l'idée, c'est de montrer qu'il y a quand même des ponts pour retrouver un peu la matière. Mmh. Voilà, j'essaie de jouer sur ces deux niveaux. Parce que, bon, après, si je cache tout, bon, ça peut...
La plus qu'intéressante, c'est un travail que tu as souvent fait, je trouve, c'est que tes tableaux, alors donc on a une toile à l'origine, et toi, c'est peint même les bords, tous les bords. Donc, on a carrément un objet complet, quoi. On se dit que si on retournait, si ça se trouve, on ne s'est pas sûr que derrière, ça ne serait pas encore pareil. C'est-à-dire, et ça, c'est une chose que tu as toujours aimé aller déborder, ou en tout cas, déborder du cadre, soit ouais. Prendre tout, quoi.
Dans la conception, ouais.
Ça fait un peu sculpture, quoi. Ça fait un peu un travail...
Ouais. Bah, c'est ce qu'on appelle les toiles en 3D. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas une dimension plane, c'est un point... Vous voyez, on change d'aspect. C'est-à-dire, c'est vrai que même les côtés ont une importance. Moi, ça rejoint de ce que j'ai appris en chimie, que la matière, c'est avant tout du vide. Donc là, on arrive... Bon, les premiers boulots que j'ai faits il y a très longtemps, je crois que Nikita Senfal est morte de ce genre de truc, je travaillais sur du polystyrène. Vous voyez ce que c'est, une boule de polystyrène ? À la flamme et à l'acétone.
Oui.
Ouais, bon, c'est super bon pour les bronches et tout. Et bien, l'impression que ça pouvait donner... Alors que c'était que de la matière, du plastique, mais c'était incroyable, je veux dire.
Ouais, ouais.
Les gens, ils voyaient des tripes, ils voyaient leur intérieur, ils voyaient... Ouais. Et donc, pour revenir alors, au petit tableau, j'appelle ça donc auto-camouflage. Donc ça, c'est des maquettes. Et maquettes, ça veut dire, bon, ben, y a un travail plus... d'ampleur plus important qui va suivre. Mais il faut que je travaille autant dans le théorique, c'est dialectique tout ça, que dans ces maquettes, avant de partir. Bon, parce que l'énergie que ça donne, on passe pas la même énergie à faire un truc qui fait 30 cm sur 30 cm, un truc qui fait 1,80 m sur 1,80 m. Et c'est vrai que j'ai l'avantage aujourd'hui, enfin, par rapport à il y a quelques années, c'est que j'alterne le travail entre l'atelier... où il y a nos ordinateurs, nos informatiques pour ce travail, que je prends des photos de différentes phases et je peux retravailler chez moi, tester différentes choses, imaginer à partir des éléments. Et c'est vrai que j'avance beaucoup plus vite qu'il y a quelques années, ça c'est sûr.
Mmh.
Voilà. Mais ça, c'est une déclinaison de mon travail sur la conscience qui s'appelle auto-camouflage. Il y en a d'autres, il y a un truc qui s'appelle réalisme de surface, qui a rapport à la mémoire, enfin voilà, bon, c'est... J'essaye de, pas de compartimenter, mais de séquencer l'ensemble, disons, de ces éléments, de ces recherches sur la conscience. Voilà. Depuis déjà un certain temps.
Et de quelle conscience tu parles ?
Eh bien, de la conscience, conscience de soi pour l'individu, la conscience universelle. Alors là, ça peut nous amener à des débats très très longs.
Mais on se camoufle alors, tu penses ? Notre conscience, elle n'effleure pas si nettement ?
Mais je pense que la conscience, si je vais la définir, c'est une matière élastique qui peut avancer. Ce qui l'a fait avancer, ça peut être les recherches, la recherche, ça peut être les découvertes spatiales, même un petit robot sur une comète. Ça nous donne les dimensions, quelque part, disons, de notre conscience humaine. Mais alors là où ça va plus loin, donc j'anticipe sur le livre, par exemple, c'est que le concentré de notre conscience passe par le cerveau. Le cerveau qui est le centre nerveux de toutes nos sensations. Mais ça, c'est un processus qui s'est fait à l'échelle des planètes,
mm-hmm.
pour ce qu'on est né aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, on a plus ce recul de savoir pourquoi on a ces sensations, pourquoi on a des sentiments, pourquoi on a ceci, parce qu'on a perdu le fil de l'histoire de ce qu'on est exactement. Moi, je pense qu'on est toujours des bestioles, mais qui pense qu'on est autre chose. Voilà. Mais après, bon, voilà, c'est différentes facettes pour amener à cette réflexion. Après, comme je disais il y a longtemps, je ne sais pas si je cherche quelque chose, parce qu'il y a eu un rapport à Picasso qui disait ça autrement. Moi, je disais, je ne sais pas si je cherche quelque chose, mais je pense que je trouverai un jour. Et petit à petit, bah, c'est vrai que ça avance. Bon, je suis le premier étonné. À partir de mon propre travail, d'espèce d'introspection, ethno-introspection, comme je disais ça à l'époque, ça fait des mots un peu à rallonge, avec ma propre conscience. Voilà, c'est l'outil. Mon pinceau, c'est ma conscience. Après, au niveau de la technique, je me définis comme plasticien parce que j'utilise 36 000 trucs. La technique ou les techniques font partie des œuvres, etc. Mmh. J'ai jamais préconçu quelque chose avant et puis je découvre la chose en même temps qu'elle se réalise.
Bon, c'est très... Je te remercie beaucoup parce que ça éclaire cette exposition qui est en place dans les locaux de Canal Sud. Alors oui, dans les locaux de Canal Sud tout le mois de février. Vous tapez Jean-Luc Zwenger, Zwenger, et vous aurez soit Facebook, et sinon on a accès aussi à des textes. C'est intéressant. Et sinon, bon, venez quand même à Canal Sud, vous avez encore tout le mois de février pour voir cette expo. Et vite, on lance le clin d'œil à 14-18, la dernière chanson qu'on a choisie. C'est parti, merci Jean-Luc.
Merci à Canal de m'avoir accueilli.
Ça craque, c'est de 1917.
Pour le retour, le plaisir du
ah oui, c'est du mieux.
Ça fait un peu augereux.
C'est la version originale.
Alors ça
capille. Nous avons la nuit, nous vivons pour le cours, ce n'est que la de l'eau, mais pour nous faire amour. La de l'eau, Dieu, 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 D